Chapitre 4 Ténèbres. À 3 heures du matin, le chef de la sûreté du Sussex, répondant à l'appel urgent que le sergent Wilson lui avait adressé à Merlston, arrivait dans un léger dog-cart que tirait une bête hors d'haleine. Par le train de 5h40 du matin, il envoya son message à Scotland Yard. Et quand à midi nous débarquâmes à Merlston, il nous reçut à la gare. C'est un homme assuré, tranquille, rassis, vêtu d'un ample costume de gros drap, le visage sans un poil de barbe, rubicond, replet, les jambes puissantes et noueuses, sanglé dans des huisseaux. On le prit pour un petit fermier, pour un garde-chasse, enfin, pour tout au monde, plutôt que pour un officier très distingué de police criminelle de la province. « Ça va ronfler, je vous dis que ça, monsieur MacDonald, » répéta-t-il comme un refrain. « Laissez la nouvelle sévroité, et vous verrez les journalistes à courir plus nombreux que des mouches. J'espère que nous aurons fini avant qu'ils mettent le nez dans l'affaire. » Et brouille toutes les pistes. C'est quelque chose, voyez-vous, qui ressemble à rien dont on se souvienne. Sauf erreur, vous y trouverez votre compte, monsieur Holmes. Et vous aussi, monsieur Watson, car l'enquête ne se terminera pas sans que le médecin ait leur mot à dire. Votre chambre vous attend à l'enseigne des armes de Vesville. Pas d'autre auberge, mais c'est propre. La maison est bonne. On va vous porter vos sacs. Par ici, je vous prie. Vraiment, il était l'activité, la gaieté en personne, ce détective de Sussex. Au bout de 10 minutes, nous étions installés à l'auberge. Au bout de 2 autres 10 minutes, nous avions eu par lui, dans le petit salon, un rapide aperçu des faits. De temps en temps, MacDonald prenait des notes. Holmes, attentif, immobile, écoutait, avec l'émoi, le respect, l'admiration du botaniste contemplant une fleur rare et précieuse. « Étonnant !» dit-il, quand White Mason eut achevé son récit. « Je ne me rappelle pas un cas où soient réunis tant de traits singuliers. Oh, mais votre opinion ne me surprend pas, monsieur Holmes, répondit White Barnes, rayonnant de plaisir. Non, nous marchons avec notre temps dans le Sussex. Je viens de vous dire ce qui s'est passé jusqu'au moment où j'ai relevé le sergent Wilson, entre 3 et 4 heures. Quel trajet a mené ma jument, parole d'honneur. J'aurais pu m'en dispenser, n'étant pas à même de me rendre des mesures immédiates. Le sergent avait en main les renseignements essentiels. Je les pesais, je les contrôlais, j'en ajoutais quelques autres. Par exemple ? Demanda Holmes. Oh, par exemple, en présence et avec l'aide du docteur Wood, j'examinais le marteau. Nous n'y découvrîmes aucun indice de violence. J'espérais que M. Douglas avait pu s'en faire une arme, et qu'avant de se laisser retomber sur le tapis, il avait frappé son assassin, et que les taches y étaient restées. Mais le marteau ne portait point de taches. « Oh, ça ne prouve rien, naturellement, » fit observer MacDonald. « Bien des fois, un marteau a pu servir d'instrument de meurtre sans qu'il y reste des traces pour en témoigner. En ce fait, cela ne prouve rien. Mais s'il y avait eu des traces, c'eût été un inutile, un indice. Oh, je regrette qu'il n'y en ait pas. » J'examinai ensuite le fusil. On l'avait chargé avec des chevrotines, et comme vous l'a dit le sergent Wilson, on avait relié les deux gâchettes par un fil de fer, de sorte qu'en pressant sur la gâchette postérieure, on détermina à double décharge. Ce qu'avait fait, ça, c'était d'épaissir à ne pas rater son homme. L'arme sciée à son extrémité avait tout au plus 5 pieds de long et pouvait se dissimuler sous un vêtement. Le nom du fabricant avait disparu en partie. Les 3 lettres PEN se voyaient encore sur la cannelure entre les 2 canons. La scie avait enlevé le reste. Un P majuscule, surmonté d'un paraphe en E et un N plus petit, n'est-ce pas ? Demanda Holmes. Oui, précisément. Pennsylvania, Small Arm Company, la célèbre marque américaine. Oui, Wright Watson regarda mon ami comme l'humble policier du village en fut d'une difficulté qu'il arrête, regarde le spécialiste d'Amey Street qui le résout d'un mot. Mais cette indication va beaucoup nous aider, monsieur Holmes. Oh, vous avez sûrement raison. Admirable, admirable. Est-ce que vous logez ainsi dans votre mémoire les noms de tous les armuriers du monde? Mais Holmes, d'un geste vague, écarta la question. Pas de doute que le fusil soit américain, continua White Watson. Mais ça me l'avoir lu qu'en certaines régions de l'Amérique, c'est l'usage de scier le canon des fusils de chasse. J'avais tout de suite soupçonné la provenance de l'arme. Ainsi, nous avons lieu de croire que l'homme qui pénétra dans la maison pour en tuer le maître était un Américain. MacDonald hocha la tête. « Oh, vous allez bien vite en besogne, dit-il. Rien jusqu'ici que je sache n'a démontré la présence d'un étranger dans la maison. Eh bien, la fenêtre ouverte, la pluie ensanglantée, l'étrange carte de visite, les empreintes de pas dans l'embrasure, le fusil. Simple mise en scène, peut-être. Monsieur Douglas était américain, ou, à moins, avait le temps vécu en Amérique. Monsieur Barker aussi. Les données américaines du problème ne vous obligent pas à introduire un Américain dans la maison. Eh, monsieur le maître d'hôtel, ah, que savez-vous de lui? Est-ce un homme de confiance? À toute épreuve. 10 ans au service de Sir Charles Cosme. Passé chez Douglas il y a 5 ans, lorsque Lucie est venue habiter le manoir. Jamais il n'a vu dans la maison un fusil de ce genre. Oh, le fusil était facile à cacher. C'est-à-dire pour qu'il s'y prête tant mieux qu'on en avait scié le canon. Il pouvait se mettre dans n'importe quelle boîte. Comment se jurerait-il? Il n'a jamais eu dans une maison une arme semblable. Oh, mais en tout cas, il n'a jamais vu. MacDonald, avec son obstination d'Écossais, hocha la tête. Eh bien, je persiste à croire qu'il devait y en avoir une. Veuillez considérer. Et à mesure qu'il s'échauffait dans la discussion, son accent d'Aberdeen s'accusait avec plus de force. Mais veuillez considérer tout ce qu'implique le fait qu'une personne étrangère aura apporté le fusil dans la maison, et que les choses singulières déjà constatées seraient imputables à toute personne étrangère. Mais c'est inconcevable. C'est contraire au sens commun. D'après ce que nous savons, monsieur Holmes, je demande à vous faire juge. Mais exposez le cas, monsieur Holmes, du ton le plus judiciaire. Mais l'étranger, s'il a jamais existé, n'était pas un cambrioleur. L'anneau enlevé, la carte laissée près du mort, c'est la double indication d'un assassinat motivé par des raisons intimes. Bien. Voilà un homme qui glisse dans la maison avec l'idée arrêtée de commettre un meurtre. S'il peut savoir quelque chose, c'est qu'il ne fuira pas facilement, car la maison est entourée d'eau. Et quelle arme choisira-t-il? Vous me répondrez par la plus silencieuse possible. Ainsi son dessein accompli, il enjambera lestement la fenêtre, traversera le fossé et s'éloignera tout à loisir. On comprend cela. Mais comprendrait-on qu'il choisit au contraire l'arme la plus bruyante du monde, n'ignorant pas que la détonation mettra la maison sur pied, qu'en un clin d'œil, les gens accourront, et qu'a mille chances d'être aperçus avant d'avoir traversé le fossé, voyons, monsieur Holmes. Mais est-ce croyable? Vous présentez vigoureusement votre thèse, repartit mon ami pensif. Elle mérite justification. Laissez-moi vous demander, monsieur White Mason, si vous avez examiné le bord extérieur du fossé. Un homme, en sortant de l'eau, aurait pu y laisser des traces. Ah, mais le fossé a un rebord de pierre, monsieur Holmes. Je n'ai pas relevé de traces, non. Oh, je ne l'espérais guère. Quoi, pas une marque? Non, pas une. Ah, verrez-vous un inconvénient, monsieur Holmeson, à nous mener tous de suite jusqu'au manoir? Nous recueillerons peut-être là-bas quelques détails utiles. Mais j'allais vous le proposer, monsieur Holmes. Mais je croyais bon de commencer par vous mettre au courant des faits. J'aime à penser que quelque chose vous frappe. White Mason regarda mon ami d'un air de méfiance.
J'ai déjà travaillé avec monsieur Holmes, dit l'inspecteur MacDonald. Il joue franc jeu. « Pourvu que je joue à ma guise, » compléta Holmes avec un sourire. « Je n'entre pas dans une affaire que pour aider aux fins de la loi et collaborer avec la police. Si jamais je me suis séparé de l'autorité officielle, c'est qu'elle s'est elle-même séparée de moi. Je ne désire pas manquer les points à ses dépens, mais je revendique le droit de mener ma partie comme je l'entends. » et de m'annoncer mes résultats qu'à mon heure, d'un coup. Mais votre présence m'honore, et je ne doute pas que vous ne fassiez profiter de vos découvertes, répliqua d'une voix cordiale White Mason. Venez, docteur Watson, je compte bien prendre place un jour dans votre livre. Nous descendîmes l'amusante rue du village que bordaient sur la droite et sur sa gauche des arbres essaimés. À sa sortie même, se dressaient deux antiques piliers de pierre salis par les intempéries et les lichens, couronnés par quelque chose d'informe qui avait jadis été le lion rampant de Capus de Bischlaun. Une courte allée sinueuse entre des pelouses et des chênes, comme on ne voit que dans la campagne anglaise, un coup de brusque, et la maison apparut, longue, basse, dans son architecture jacobienne, de briques sombres, avec son jardin d'autrefois planté d'ifs taillés. Puis nous aperçûmes le pont-levis, le fossé large, aux belles eaux tranquilles, miroitant sous le froid soleil d'hiver. Trois siècles avaient passé sur le manoir, trois siècles de naissance, de départ et d'arrivée, de drame, de mâts, chasse, singulière fantaisie du sort, qu'au bout de tant d'années, le mystère d'aujourd'hui jeta une ombre sur ces murs vénérables. Pourtant, ces toits aigus, ces pignons surplombants, avait l'air fait exprès pour courir quelque ténébreuse et terrible intrigue. Tandis que je considérais
la noire étendue de la façade aux fenêtres profondes, je songeais qu'un drame de cette sorte n'aurait nulle part rencontré un théâtre mieux approprié. « Voici la fenêtre, » dit Whitebasson, « la première à gauche du pont-levis. Elle est encore ouverte comme la nuit dernière. Elle semble bien étroite pour livrer passage à un homme. Eh bien, quoi, l'homme était mince. Pas besoin de votre traduction pour me l'apprendre, monsieur Holmes. Vous ou moi, nous passerions en nous serrant. » Holmes gagna le bord du fossé et regarda autour de lui. Puis il examina la rebord de la pierre et la bande de gazon environnante. « Oh, j'ai bien regardé aussi, monsieur Holmes. Rien à voir, aucune trace d'un homme ayant pris terre. Pourquoi du reste aurait-il nécessairement laissé des traces ?»« En effet, pourquoi? Est-ce que l'eau est toujours trouble ?»« Voilà généralement cette couleur. Le ruisseau charrie de la glaise. » « Quelle profondeur mesure le fossé ?»« Environ 2 pieds sur les côtés, 3 au milieu. »« Par conséquent, impossible que l'homme se soit noyé en traversant. »« Impossible, un enfant ne s'y noierait pas. » Le pont franchi, nous fûmes reçus par un être cocasse, tout ratatiné, tout desséché, le maître d'hôtel Ames. Il était livide, le pauvre diable, et tremblait d'émotion. Dans la chambre où gisait le mort, le sergent du village, grand, raide, mélancolique, montait encore sa garde. Le docteur avait pris congé. « Rien de nouveau, sergent Wilson ?» demanda Whitebasson. « Non, rien, monsieur. »« Alors vous pouvez vous retirer. » Vous avez suffisamment à faire. Nous vous enverrons chercher si nous avons besoin de vous. Le maître d'hôtel devait attendre dehors. Priez-le d'avertir M. Cecil Baker, Mrs. Douglas et la gouvernante que nous aurons dans un instant à causer avec eux. « Maintenant, messieurs, peut-être me permettez-vous de vous communiquer mes premières réflexions. Vous me direz les vôtres. » Il m'impressionnait, ce spécialiste provincial. Il s'attachait solidement aux faits. Il avait un esprit froid, clair, sensé, qui le mènerait loin dans sa carrière. Holmes l'écoutait des deux oreilles, sans manifester aucune de ses impatiences que provoquait trop souvent chez lui un exposé officiel. « Suicide ou meurtre, c'est la première question qui se pose, n'est-ce pas? S'il y a eu suicide, nous devons croire que Douglas a commencé par ôter son anneau de mariage et par le cacher. Puis il est venu jusqu'ici, dans sa robe de chambre. Il a piétiné derrière le rideau avec des chaussures boueuses. Afin de donner l'idée qu'on l'avait attendu. Enfin, il a ouvert la fenêtre et il a dessiné une empreinte sanglante sur... Oh, hypothèse improbable, interrompit MacDonald. Oui, je le pense. Le suicide est hors de cause. Reste le meurtre. Nous avons à déterminer s'il a été commis par une personne de la maison ou par un étranger. Allez-y. Dans les deux cas, nous nous trouverons heurtant à des difficultés considérables. Il faut pourtant que ce soit l'un ou l'autre. Supposons d'abord qu'une ou plusieurs personnes de la maison aient accompli le crime. On a donc attiré l'homme ici, à une heure où tout déjà était tranquille, mais où les gens n'étaient pas encore endormis. Puis on l'a tué avec l'arme la plus inattendue, la plus tapageuse, comme pour prévenir tout le monde de ce qui se passait. Notez que jamais une pareille arme n'avait été vue dans la maison. Oh, voilà qui constitue pas un très bon point de départ, ce me semble. En effet,
Nous sommes d'avis qu'une fois l'alarme donnée, il ne s'écoula pas une minute avant que, du premier au dernier, les habitants de la maison, et non pas seulement M. Barker, bien qu'il affirme avoir devancé tout le monde, mais le maître d'hôtel et les autres domestiques fussent sur les lieux. Prétendrez-vous qu'en si peu de temps, le coupable a trouvé le moyen de tracer des empreintes contre la fenêtre, de l'ouvrir, de marquer l'appui avec du sang, d'enlever l'anneau de mort et tout le reste, pour moi, impossible. C'est fort bien raisonné. Je serais volontiers d'accord avec vous, dit Holmes. Nous en venons donc à présumer une intervention étrangère. Ici encore, de grosses difficultés se présentent, mais non plus des impossibilités. L'homme a pénétré dans la maison entre 4h30 et 6h, autrement dit, entre le crépuscule et le moment où on l'a remonté le pont. Aucun obstacle. Il y avait eu des visites au manoir, la porte est restée ouverte. L'homme pouvait être ou bien un malfaiteur, vulgaire, ou bien tout simplement un ennemi personnel de M. Douglas. Je pencherai pour cette dernière hypothèse, attendu que M. Douglas avait passé la plus grande partie de sa vie en Amérique et que le fusil est apparemment de provenance américaine. Voyant cette chambre, l'homme s'y glisse, il se cache derrière le rideau et il demeura là jusqu'après 11h. Et à ce moment, M. Douglas entra. La conversation qui s'ensuivit, si du moins il s'ensuivit d'une conversation, fut brève, car Mrs. Douglas déclara que son mari l'avait à peine quitté depuis quelques minutes quand elle entendit le coup de feu. « La bougie confirme ce témoignage, » dit Holmes. « Effectivement, la bougie était neuve et n'a brûlé tout au plus que d'un demi-pouce. » M. Douglas devait l'avoir posée sur la table avant l'agression, sans qu'elle l'eût accompagnée dans sa chute. On n'a donc pas attaqué à l'instant où il entrait dans la chambre. Après l'arrivée de M. Baker, la lampe fut allumée et la bougie éteinte. À merveille! Ces bases de données reconstruisent la scène. M. Douglas entre dans la chambre. Il pose son bougeoir. Un homme sort de derrière le rideau. Il est armé du fusil. Il réclame l'anneau de mariage. Dieu sait pourquoi, mais enfin, il le réclame. Qu'il agisse de sang-froid ou dans la chaleur d'une lutte, car Douglas a peut-être saisi le marteau qu'on a retrouvé sur le tapis, il fait feu et il inflige à Douglas cette mort épouvantable. Puis il laisse tomber son arme et cette mystérieuse carte VV341. Il se sauve par la fenêtre, il traverse le fossé à la minute même où Barker découvre le crime. Qu'en dites-vous, monsieur Holmes? Très intéressant, mais pas tout à fait convaincant. Parbleu, l'explication serait absurde si tout autre n'était pire. Un homme a tué cet homme, quel que soit le meurtrier, me ferait fort de vous démontrer qu'il aurait dû s'y prendre différemment. Pourquoi n'assure-t-il pas mieux sa retraite? Pourquoi se sert-il d'un fusil quand le silence est sa seule chance de fuite? Allons, monsieur Holmes, c'est à vous de parler, puisque la théorie de monsieur Whitmanson n'a pas le don de vous convaincre. Holmes avait écouté avec recueillement, sans en perdre un mot, cette longue discussion. Ses yeux lançaient des éclairs, son front se ridait sous l'effort de la pensée. « Avant de risquer une théorie, dit-il, j'aimerais en réunir quelques faits supplémentaires. » Et, s'agenouillant devant le corps, « En vérité, ces blessures sont épouvantables. »
Nous pourrions-nous avoir un instant le maître d'hôtel?
Ah, dites-moi, Hammes, j'ai cru comprendre que vous aviez vu maintes fois sur l'avant-bras de M. Douglas cette marque insolite, un triangle dans un cercle.
Oui, monsieur, maintes fois.
Et jamais il n'a fait allusion devant vous à ce qu'elle signifiait?
Oh non, jamais, monsieur.
C'est incontestablement une brûlure, et qui a dû être douloureuse.
Autre chose, Hams, je remarque un petit morceau de taffetas sur la joue de M. Douglas à l'angle de la mâchoire. L'avez-vous remarqué vous-même, son vivant?
Oh oui, monsieur. Monsieur Douglas s'est coupé hier matin en se faisant la barbe.
Était-il sujet aux accidents de ce genre?
Oh non, monsieur, pas depuis longtemps.
Très significatif, dit Holmes.
À moins d'une simple coïncidence, ce serait chez Douglas la preuve d'une nervosité, montrant qu'il appréhendait un danger. Un mot encore.
Hams, rien d'inaccoutumé ne vous a frappé hier dans sa conduite?
Oh si, monsieur, il semblait un peu agité, il ne tenait pas en place.
Ah ah, l'agression ne l'a pas entièrement prise à l'improviste.
Nous progressons un peu, n'est-ce pas? Mais j'y sors, monsieur Mark. Vous préférez peut-être vous charger de l'interrogatoire.
Oh, Dieu le plaise, monsieur Holmes, il est en de meilleures mains.
Mais alors, passons à cette carte VV341. Elle est d'un carton grossier. Avez-vous de ce carton dans la maison?
Je ne crois pas.
Holmes se dirigea vers le bureau et de chacun des encriers, il laissa couler sur le buvard une goutte d'encre.
Non, ce n'est pas ici qu'on a écrit la carte.
Ici, l'encre est noire, au lieu que celle de l'inscription est violette.
Puis on s'est servi d'une grosse plume, mais je ne vois ici que des plumes nues.
Je le répète, cette carte a été préparée ailleurs.
L'inscription ne vous dit rien, Hams?
Oh, rien, monsieur.
Et qu'en pensez-vous, MacDonald?
Ben, j'en pense qu'il pourrait y avoir là-dessous quelques sociétés secrètes, la même qui aurait imprimé cette marque sur l'avant-bras.
Oh, c'est aussi mon idée, appuya White Mason.
Eh bien, adoptons cette hypothèse. Voyons jusqu'à quel point elle nous aide à résoudre nos difficultés. Un agent d'une société secrète s'introduit dans la maison avec cette arme et se sauve en traversant le fossé après avoir laissé une carte dont l'inscription reproduite par les journaux préviendra les affiliés que justice est faite. Mais pourquoi, quand il a le choix entre tant d'armes, cet homme choisit-il ce fusil?
Justement.
Et pourquoi s'empare-t-il de l'anneau?
Oui, pourquoi?
Et d'où vient qu'on ne l'ait pas encore arrêté? Il est 2 heures passées. Depuis l'aube, il n'y a pas, à 40 miles à la ronde, un constable qui recherche un étranger portant des vêtements humides?
Oh, assurément, monsieur Holmes.
Donc, on ne pouvait guère le manquer, à moins qu'il n'eût un abri dans le voisinage ou les vêtements de rechange. Et cependant, jusqu'ici, on l'a manqué.
Holmes, s'étant rapproché de la fenêtre, examinait à la loupe la tache de sang restée sur l'appui.
Oh, c'est évidemment l'empreinte d'un soulier. Elle est d'une dimension peu ordinaire. Et le pied semblerait d'un pied plat. Étrange, car autant qu'on puisse distinguer une empreinte de semelle dans le coin, parmi les traces de boue laissées par le piétinement, la forme en paraît plus régulière.
Bon, il est vrai qu'on a du mal à s'y reconnaître, mais qu'est-ce que j'aperçois là-bas, sous cette table?
Ben, les haltères de M. Douglas, dit Hams.
Et un des haltères, car il n'y en a qu'un, où est l'autre?
Oh, je l'ignore, monsieur Holmes. Je peux qu'on y ait, n'en ai jamais eu et que je n'ai pas fait attention depuis des mois.
Un alter, fit Holmes d'un air grave.
À ce moment, un coup sec frappé à la porte vint interrompre.
Un homme m'apparut, grand, rasé, le teint râlé, la figure intelligente.
À ce que je savais de lui, je reconnus M. Cecil Barker. Ses yeux autoritaires promenaient de visage en visage une interrogation muette. « Désolé de vous déranger, dit-il, mais je vous apporte une nouvelle. »«
On tient l'assassin ?»«
Oh non, hélas, pas encore. On a seulement découvert sa bicyclette, qu'il avait abandonnée. Venez, venez y jeter un coup d'œil. » Elle n'est qu'à une centaine de yards de l'entrée. Quatre individus, garçons d'écurie et flâneurs groupés dans la grande allée, regardaient une bicyclette qu'on venait de retirer d'un buisson. C'était une Judge Whiteworth, fatiguée par l'usage, couverte d'éclaboussures comme après une course, munie d'un sac renfermant une clé anglaise et une burette à huile. Elle ne fournit aucun indice qui en révéla, si peu que ce fût, le propriétaire. « Ces objets, dit l'inspecteur, serviraient utilement à la police s'ils étaient numérotés et enregistrés. Mais contentons-nous de ce que nous avons. Sachons où est allé le cycliste et nous finirons bien par savoir d'où il venait. Pourquoi d'ailleurs le gaillard a-t-il abandonné sa machine ? Comment a-t-il décampé sans elle ? Il ne semble pas que nous soyons prêts d'y voir clair, monsieur Holmes. »
Croyez-vous ? Répliqua mon ami rêveur.
Je me le demande.